Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le début ce lundi du procès en appel de l'attentat de Nice. Et pour la première fois, un moment qui sera assurément fort, 9 enfants vont témoigner de l'horreur ce soir du 14 juillet 2016, quand un terroriste a foncé dans la foule sur la promenade des Anglais. Les cours reprennent à Montpellier au collège de la jeune Samara, 13 ans, rouée de coups au début du mois, à distance pour l'adolescente encore choquée. Et la reprise compliquée sur la route ce matin en région parisienne, une partie de l'A13 est fermée à cause de fissures sur la route. De gros bouchons ce matin dans le secteur.
Et après le journal, cette décision de justice qui fait scandale. Un père accusé de violence sur ses enfants, condamné en première instance, vient d'être relaxé en appel. Les juges ont reconnu un droit de correction. C'est un arrêt digne des années 50, dénonce l'avocat des enfants. Il défend son parti pris sur RMC dans 10 minutes. Et cette fois, ce sont des enfants qui vont raconter l'horreur au procès en appel de l'attentat de Nice.
Le 14 juillet 2016, l'attaque au camion Bélier qui avait fait 86 morts et plus de 450 blessés. 3000 enfants se trouvaient ce jour-là sur la promenade des Anglais. Et pour la première fois, 9 d'entre eux vont être entendus lors du procès en appel qui commence aujourd'hui. Ils n'avaient pas témoigné lors du premier procès au cours duquel les deux complices du terroriste avaient été condamnés à 18 ans de prison. Ils vont donc le faire cette fois, Thomas Chupin pour RMC avec BFM Nice Côte d'Azur.
Et parmi ces 9 enfants, Kenza, elle avait 4 ans le 14 juillet 2016.
J'ai l'impression que ça nous fait du bien, nous, de dire ce qu'on a vécu ce soir-là.
Et Kenza a des souvenirs très précis, plus précis que ceux de sa maman, dit-elle. Alors à l'audience, elle va raconter ces moments qui l'ont traumatisée.
Quand on était passé sur le camion, je pensais que maman, elle était partie avec le camion. Je me rappelle aussi quand maman s'était relevée du camion, et ben elle avait peur que moi je saignais, à part que j'avais son sang sur moi en fait.
Hassim veut lui aussi faire comprendre à quel point l'attentat a changé sa vie. Il avait 6 ans au moment de l'attaque.
À l'école aussi, il y a beaucoup de monde, j'essaye pas trop de me rapprocher des gens. J'ai peur des endroits où il y a du monde, on va dire, comme le carnaval. J'ai pas pu y aller parce que j'avais peur aussi.
Lors du premier procès, Kimberley avait pu témoigner. Plus âgée, mais encore adolescente, elle avait 16 ans en 2016. Depuis, elle insiste, la parole, même des plus jeunes, est importante.
C'est pas parce qu'on est petit que forcément on comprend moins de choses. On comprend très bien ce qu'on a vécu. C'est important de faire comprendre aux gens. Oui, les enfants, on est traumatisés.
Et pour que ces enfants témoignent de manière naturelle, sans la pression d'une véritable salle d'audience, c'est à distance qu'ils prendront la parole en visio depuis une salle aménagée à Nice.
C'est la reprise des cours ce matin à Montpellier au collège Arthur Rimbaud. C'est le collège de la jeune Samara qui avait été, souvenez-vous, rouée de coups au début du mois. Le rectorat de Montpellier a annoncé hier soir des sanctions disciplinaires à venir contre ses agresseurs. À l'adolescente de 13 ans, elle va reprendre les cours aujourd'hui. Mais alors à distance, hein, pas possible de retourner en salle de classe. Voilà ce que nous dit l'avocat de sa mère, maître Marc Galix.
Aujourd'hui, sa fille ne parle pas, sa fille a peur. Sa fille dort avec sa mère dans un canapé au rez-de-chaussée de la maison qu'elles occupent. Sa fille est pratiquement mutique. Sa fille voit tous les jours, quotidiennement, un pédopsychiatre pour l'aider à sortir de ce traumatisme. Samara ne pourra pas être scolarisée avant la rentrée du mois de septembre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa maman a demandé à ce qu'elle puisse suivre des cours dans la maison de sa mère pour quand même ne pas perdre contact avec sa scolarité.
Et un rassemblement des enseignants est prévu ce matin devant le collège, préavis de grève déposée pour dénoncer notamment le silence des autorités jusqu'alors. Et voilà dans quel contexte le Premier ministre Gabriel Attal sera ce matin à Nice pour ouvrir un internat éducatif au lycée du Parc Impérial dans la foulée de ses annonces pour restaurer l'autorité auprès des jeunes après de nombreuses affaires de violence impliquant des adolescents. Ça s'adresse à ceux qui sont sur la mauvaise pente, hein, Cyprien Pézril, du service politique à RMC.
Des mineurs décrits comme à la dérive, accueillis pendant 2 semaines de vacances scolaires, envoyés loin de chez eux, avec l'accord de leurs parents pour combler leur temps libre, les faire sortir de leur environnement et leur donner l'opportunité de retrouver un cadre, explique Matignon. Au programme soutien scolaire, éducation civique et sport, encadré par des professionnels de la jeunesse ou encore par des gendarmes réservistes. Il y a donc cette formule. Pendant les vacances, il y aura aussi, dès septembre, une autre à l'année. 50 000 places sont libres dans 1 600 collèges et lycées du pays. C'est une mesure éducative, défend l'entourage du Premier ministre. Pourtant, ce matin, il ne sera pas accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, mais par celui de la Justice. Les syndicats d'enseignants dénoncent d'ailleurs une approche idéologique de l'internat, vu selon eux uniquement comme un lieu de redressement.
La préfète du Val-de-Marne annonce qu'elle va saisir le procureur de Créteil après la polémique du week-end à Villeneuve-Saint-Georges, commune où le maire a fait deux saluts nazis. C'était samedi en plein conseil municipal. Il a depuis présenté ses excuses. C'est un phénomène, pour ne pas dire un fléau, qui prend de l'ampleur en région parisienne. Et 11 maires de Seine-Saint-Denis vont se rassembler ce soir à Pantin. Pourquoi ? Pour demander à l'État d'agir contre le trafic de cigarettes de contrebande qui pourrit la vie d'absolument tout le monde. Écoutez, c'est impossible d'y échapper, Lucas Lobert.
À la sortie du métro, quelques secondes suffisent pour se faire interpeller par un vendeur. Ici au carrefour des quatre chemins, les trafiquants peuvent être des dizaines au plus fort de la journée, paquets à la main, parfois même sur des présentoirs de fortune faits de cagettes. Léa habite ici depuis plus de 50 ans.
Ils vendent comme ça, ils sont tous là. Moi, je suis obligée d'aller sur la rue pour passer.
Ces nuisances durent maintenant depuis une dizaine d'années et deviennent insupportables pour les passants, d'autant qu'elles s'accompagnent aussi de violences, comme le constate cette riveraine.
Il y a des concurrences de vendeurs entre eux, avec des bagarres, et puis il y a eu une rixe à l'arme blanche.
Alors régulièrement, la police vient pour sécuriser les lieux.
C'est une embolée de moineaux, tout le monde part en courant, mais ça revient aussi sec parce qu'il reste pas.
Et ceux qui sont en première ligne, ce sont les commerçants. Ils assistent impuissants à ces trafics, avec même des conséquences sur leurs affaires. Exemple avec Sophia.
On a perdu beaucoup de clients. Ils ont déménagé, les gens, oui. Franchement, le chiffre, il a baissé de moins 30%. Si je trouve ailleurs, franchement, je déménage.
Pour l'instant, seule la police municipale intervient au quotidien. Insuffisant pour les communes concernées qui demandent à l'État plus de forces policières, douanières et juridiques.
À 8h07 ce matin sur RMC, les routes sont très chargées en région parisienne. Plus de 300 km de bouchons, là, au moment où on se parle. C'est bien plus que d'habitude à la même heure. En fait, c'est la fin des vacances à Paris. La reprise ce matin est la mauvaise surprise. C'est donc la fermeture de l'autoroute A13 sur une partie, la partie entre Paris et Vaucresson, à cause de fissures repérées la semaine dernière qui ont été provoquées par un mouvement de terrain. Le souci, c'est que les solutions de repli, l'A13 et le tunnel de l'A86, c'est des solutions qui sont payantes. Marion Gauthier, vous êtes en direct ce matin pour RMC à hauteur du triangle de Rocancourt. C'est compliqué donc ce matin dans le secteur.
Oui, la circulation est presque arrêtée ici, plus fluide sur les autoroutes payantes, même si le tarif augmente en heure de pointe. Ceux qui empruntent l'A14 sont donc les plus pressés ou les petites entreprises qui veulent éviter à tout prix les bouchons. Mais le passage au péage est douloureux pour beaucoup d'artisans qui passent en secouant la tête. Jean-Christophe, lui, se rend à une formation, les yeux encore gonflés de sommeil.
Là, je suis parti plus tôt, je suis parti à 6h au lieu de 7h. Et c'est cher, 10,60€ je crois. On n'a pas le choix pour arriver à l'heure au travail. Ben, j'espère que ça ne va pas durer longtemps parce que sinon ça va impacter sur le budget, quoi. 10€, une fois, deux fois, mais la troisième, non.
Alors évidemment, chaque sortie vers les routes gratuites est embouteillée et les automobilistes ont pris leur disposition. 1h30 d'avance pour un conducteur rencontré sur la départementale qui mène à Vaucresson à la sortie de la 13. Beaucoup vont devoir longer l'autoroute fermée et traverser toutes les villes jusqu'à Boulogne puis Paris. Reprise difficile, déjà plus de 300 km de bouchons en Ile-de-France d'après le site Citadin. Une situation inhabituelle.
Paris, Monaco, Brest. Voilà le nouveau podium de la Ligue 1 ce matin avec Lille, quatrième en embuscade. Paris se rapproche d'un 12e titre de champion de France. Ça pourrait être le cas dès mercredi. Paris qui a gagné 4-1 contre Lyon hier soir. 11 points d'avance maintenant sur le nouveau dauphin. Monaco qui a gagné de son côté 2-0 à Brest pour le compte hier de la 30e journée.
Quentin Vinet pour le journal Toute l'actualité chaque matin sur RMC. Il est 8h09. La politique à 8h30. Ce sera avec Naila Latrousse, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Bonjour Naila.
Bonjour.
Avec Fabien Roussel ce matin.
Oui, le secrétaire général du Parti communiste, plutôt très silencieux. Pas comme le reste de la gauche sur l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon ou la convocation de Rima Hassan par la police pour apologie du terrorisme. Est-ce que ça ne l'intéresse pas ou est-ce qu'il n'est tout simplement pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? On lui posera la question.